À la une de ce journal, le président Hassan Rouhani affirme que les politiques fondamentales de son pays ne changeront pas, peu importe qui deviendra le prochain président américain. En visite au Pakistan, le très haut diplomate iranien Mohammad Javad Zarif qualifie le Pakistan de voisin privilégié. Il rencontre ce matin le haut commandant de l'armée pakistanaise. Conflit du Haut-Karabakh, davantage de forces russes sont arrivées en Arménie pour une mission de maintien de paix. L'Iran salue l'accord de cessation de l'hostilité et se dit prêt à aider Moscou. Et puis, les drones du Hezbollah localisent des cibles depuis le ciel israélien. C'était les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Restez avec nous. Le président iranien affirme que les politiques fondamentales de son pays ne changeront pas, peu importe qui deviendra le prochain président américain. Le président Rouhani a déclaré que la politique iranienne était basée sur le respect des autres nations et la non-ingérence dans leurs affaires. Il a déclaré que le pays souhaitait une interaction constructive avec le monde et cherchait à lutter contre le terrorisme et à mettre fin à l'unilatéralisme. Hassan Rouhani a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles le président sortant Donald Trump n'avait pas remporté l'élection présidentielle américaine était que son administration avait été humiliée au Conseil de sécurité de l'ONU. Cela, ajoutait Rouhani, s'est produit après que la proposition anti-Téhéran de Washington a été rejetée catégoriquement par les membres du Conseil de sécurité. Le président iranien a déclaré qu'une autre raison pour laquelle Trump avait perdu était sa mauvaise gestion dans la gestion de la pandémie de COVID-19. L'Iran attend que le changement d'administration aux États-Unis soit un changement de cap, déclaration de Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne. Tout dépend du comportement des États-Unis. Nous attendons leurs actions, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères à son arrivée à Islamabad et en réponse à une question sur les perspectives de l'accord nucléaire avec la nouvelle administration américaine. Concernant la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, il a ajouté « Les personnalités sont certes importantes, mais ce qui est encore plus important, ce sont les comportements et les actions. Et la République islamique attend de voir ce que la nouvelle administration américaine fera. » Le chef de la diplomatie iranienne est arrivé ce mardi soir à la tête d'une délégation politico-économique à Islamabad pour consulter de divers sujets avec de hauts responsables pakistanais. Zarif a été accueilli à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan par Sayyid Mohammad Ali Hosseini, ambassadeur de la République islamique d'Iran au Pakistan. Un groupe de représentants de l'ambassade et le vice-ministre des Affaires régionales du ministère des Affaires étrangères du Pakistan. Au cours de sa visite de 2 jours au Pakistan, le chef de la diplomatie rencontrera le premier ministre Imran Khan, son homologue Shah Mahmoud Qureshi. Il vient de rencontrer ce mercredi matin le général Qamar Javed Bajwa, commandant de l'armée pakistanaise. Ces discussions avec les hautes autorités pakistanaises seront axées sur les moyens d'élargir les relations bilatérales, donner suite au processus de mise en œuvre des accords entre les deux pays et les consultations liées aux dernières évolutions régionales et internationales. Zarif a qualifié le Pakistan de voisin privilégié de l'Iran et conclut « Nous discuterons de manière régulière avec nos amis pakistanais de diverses questions, dont les relations bilatérales, les frontières, la coopération régionale et internationale, y compris l'Afghanistan ». Davantage de forces russes sont arrivées en Arménie pour une mission de maintien de la paix dans la région contestée du Haut-Karabakh. Moscou affirme que 20 avions et des centaines de membres du personnel sont arrivés dans un aéroport arménien où se trouve une base militaire russe. La Russie a commencé mardi à déployer ses forces au Haut-Karabakh. Cela est venu après que Moscou a négocié un accord pour mettre fin à ces 6 semaines de combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet de la région contestée. Dans le cadre de l'accord, l'Azerbaïdjan conservera tous ses gains territoriaux. Les forces arméniennes sont obligées de céder le contrôle de plusieurs territoires dans un délai déterminé. L'accord a déclenché la colère en Arménie, mais les célébrations en Azerbaïdjan. Les responsables azéris ont déclaré que la Turquie rejoindrait également la mission de maintien de la paix. Et l'Iran vient de saluer l'accord arménien-russo-azerbaïdjanais, la diplomatie iranienne saluant l'accord entre la République d'Azerbaïdjan, la République d'Arménie et la Fédération de Russie, a souligné « L'Iran espère de voir l'aboutissement de cet accord dont les principes étaient également inclus dans l'initiative proposée récemment par la République islamique d'Iran pour une paix durable dans le Caucase. La République islamique d'Iran insiste sur la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégralité territoriale, de ne pas changer les frontières internationales internationale officielle, de libérer les territoires occupés, du rapatriement des réfugiés, de respecter la sécurité et les droits des minorités et du retrait de toutes les forces takfiristes et des combattants étrangers de la région. L'Iran réaffirme qu'il est prêt à contribuer à l'instauration d'une paix et d'une sécurité durable dans la région et à participer aux initiatives régionales, peut-on lire dans la déclaration du ministère iranien des Affaires étrangères, émise le mardi 10 novembre. Le 9 novembre, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, et le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont signé une déclaration annonçant un cessez-le-feu total et la fin de toutes les actions militaires dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à partir de minuit le 10 novembre, hors de Moscou. La Russie est en train de déployer près de 2000 soldats de la paix pour assurer le respect du texte. Sachez également que la République islamique d'Iran s'est dite également prête à aider au déploiement des forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie selon les lignes de contact conformément aux clauses 3 et 4 de l'accord de cessez-le-feu. L'actualité en Syrie, le président syrien a déclaré que les sanctions économiques américaines contre son pays ont entravé les efforts visant à renvoyer des milliers de réfugiés dans leur patrie. Bachar Assad a qualifié les sanctions d'illégales et a déclaré que ces sanctions ont infligé de nombreux dégâts et des pertes au peuple syrien. Il a déclaré que les terroristes qui combattaient en Syrie avaient déplacé de nombreuses personnes. Mais a-t-il ajouté, certains pays ont continué à soutenir ces groupes terroristes. Le président syrien s'adressait à la Conférence internationale sur le retour des réfugiés syriens. La conférence a été organisée par la Russie et la Syrie. Elle vise à discuter des moyens de faciliter le retour en toute sécurité des réfugiés syriens. Les troupes turques se retirent des trois postes d'observation à Hama et à Alep, en Syrie. Les militaires turcs se retirent des postes d'observation qu'ils avaient installés dans le nord de la Syrie. Les forces turques ont commencé à se retirer du poste d'observation Shir Magar à Hama et vont bientôt se retirer de Kaptan al-Jabal et Jabal Anadan à Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, proche des terroristes, a annoncé ce mardi 10 novembre que les troupes turques se retiraient d'un poste d'observation à Shir Magar, au nord-ouest de Hama. Selon le rapport de l'OSDH, la nuit dernière, plus de 50 véhicules militaires ont quitté Shir Magar vers Marhatat, puis vers Sarakib et Jabal al-Zawiya. Selon toujours l'OSDH, les forces turques vont également évacuer deux autres bases. Ces postes sont situés dans la région de Katan al-Jabal, dans l'ouest d'Alep, et dans la région Jabal Anadan, dans le nord-ouest de la province. Suite à l'avancée de l'armée syrienne plus tôt cette année, les forces syriennes ont pris le contrôle de 11 postes d'observation turcs. Malgré ces retraits, le nombre de soldats turcs en Syrie continue d'augmenter. Le nombre de véhicules militaires qui sont entrés dans Idlib depuis le nouveau cessez-le-feu atteint 5450. Les présidents turcs et russes sont parvenus à un accord de cessez-le-feu à Idlib le 15 mars dernier, à la suite d'affrontements croissants entre l'armée syrienne, des groupes terroristes et l'armée turque à Idlib. Le drone du Hezbollah localise des cibles en Palestine occupée. L'armée israélienne a annoncé avoir abattu un drone du Hezbollah qui survolait la Palestine occupée. Voilà un signe de plus montrant que le ciel israélien est sous le contrôle de la résistance. Le porte-parole en langue arabe des forces israéliennes, Avishai Adraï, a déclaré mardi 10 novembre sur son compte Twitter que l'armée israélienne avait abattu un drone du Hezbollah qui avait violé l'espace aérien israélien à partir du Liban. Il a souligné que l'armée avait suivi pendant un moment la trajectoire de cet engin avant de l'abattre, soulignant qu'il ne représentait aucun risque pour les localités environnantes. Et de souligner que les forces israéliennes déployées le long de la frontière avec le Liban restent toujours en état d'alerte. L'armée israélienne est en état d'alerte depuis cet été par crainte de la riposte du Hezbollah à l'assassinat d'un de ses combattants lors d'une frappe aérienne visant la banlieue de Damas. Le Hezbollah a à maintes reprises souligné qu'il se vengerait du sang de son combattant à un moment opportun. Direction la France, qui devra voir son activité économique réduite de 9% à 10% en 2020, indiqué François Villery de Glao, le gouverneur de la Banque de France. La Banque centrale avait prédit en septembre une chute du produit intérieur brut PIB de 8,7% cette année, avant la deuxième vague de Covid-19. Avant la deuxième vague, nous pensions qu'on aurait une récession d'un peu moins de 9%. Nous pensons aujourd'hui que sur l'ensemble de l'année 2020, on sera entre moins 9% et moins 10% de contraction du PIB, a déclaré cette autorité économique, qui s'est réjouie ensuite que l'impact du deuxième confinement sur l'ensemble de l'économie soit beaucoup plus faible que celui du premier au printemps, avec 12% de chute de l'activité prévue en novembre contre moins 31% en avril. Par ailleurs, le taux de chômage a bondi au troisième trimestre pour s'établir à 9% de la population active en France, une situation qui risque de s'aggraver dans les mois à venir avec la deuxième vague épidémique et le nouveau confinement. Selon les chiffres publiés mardi par l'INSEE, le taux de chômage mesuré selon les normes du Bureau international du travail BIT a connu une hausse de 1,9 points. La France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 620 000 personnes de plus sur le trimestre. Sachez également que le taux de chômage au Royaume-Uni a progressé à 4,8% au cours du troisième trimestre et les licenciements ont atteint un niveau inédit en raison du choc économique de la pandémie, annoncé mardi le Bureau national des statistiques ONS. L'ONS rappelle que le taux de chômage était de 4,5% pour la période de 3 mois achevée fin août. Au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre, le pays a enregistré 314 000 licenciements, dépassant les niveaux qui avaient suivi la crise financière de 2008. Malgré la réouverture de l'économie au cours de l'été, après le confinement, la crise sanitaire fait des dégâts profonds dans de nombreux secteurs comme ceux du transport aérien, du commerce, de la restauration, qui multiplient les annonces de suppression de postes. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Le bilan américain en matière des droits de l'homme critiqué par de nombreux pays à l'ONU. Les Nations Unies ont critiqué les États-Unis pour un tas de problèmes liés à leur bilan en matière des droits de l'homme. La 36e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel EPU du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est tenue à Genève et a examiné la situation des droits de l'homme aux États-Unis. La réunion a soulevé les questions de la brutalité policière, de la discrimination raciale et des mauvais traitements infligés aux migrants aux États-Unis sous l'administration Trump. De nombreux pays tels que la Chine, la Russie, Cuba, l'Iran, le Venezuela et la Syrie ont exhorté Washington à lever immédiatement toutes les sanctions et embargos unilatéraux contre les pays en développement, à cesser de pratiquer la torture lors de ses actions antiterroristes et à mettre fin à sa pratique d'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays sous prétexte des droits de l'homme. Le conseiller d'Iran auprès du siège de l'ONU à Genève, s'exprimant lors de la 36e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme, a demandé aux États-Unis de poursuivre les assassins du général Soleimani et mettre fin à la violation flagrante des droits de l'homme. Lors de son discours dans l'Assemblée de l'ONU sur la situation des droits de l'homme, Mohammad Sadatinejad, le conseiller aux droits de l'homme de la mission iranienne auprès du siège de l'ONU à Genève, a évoqué la longue histoire de graves violations des droits de l'homme aux États-Unis et a suggéré à Washington d'arrêter cela. Lors de son intervention, le haut diplomate iranien a exhorté les États-Unis à mettre fin aux meurtres systématiques à l'aide de drones et à traduire en justice les assassins de 5 citoyens iraniens, dont le martyr Soleimani, le héros de la lutte contre le terrorisme. Intervenant toujours à la réunion, la représentante du Kenya recommande le forum au gouvernement des États-Unis pour prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale, sexuelle, religieuse et autres, mettre en œuvre des stratégies délibérées pour réduire l'écart entre les Afro-Américains et le reste de la population ainsi qu'entre les autochtones et non-autochtones, et donc réduire la discrimination structurelle et institutionnelle. Les membres ont également suggéré que les États-Unis réintègrent l'accord de Paris sur le changement climatique et ratifient le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d'autres conventions internationales relatives aux droits de l'homme aussi rapidement que possible. Le Conseil a exprimé l'espoir que la prochaine administration américaine s'efforcerait de stopper ce qu'il a appelé les conséquences politiques néfastes de Trumpisme.